Je vais commencer maintenant un petit exposé d'introduction pour ce séminaire sur Job. Alors, ce que je dis est enregistré de manière à ce que, après, vous puissiez le suivre sur le site ou bien d'autres personnes pourront en profiter. Job, c'est un livre de la Bible, un livre qu'on appelle de sagesse. Il fait partie de l'ensemble des livres de sagesse. Il y a les livres historiques, il y a les livres prophétiques et il y a les livres de sagesse. Un de ces livres, c'est Job. C'est un ensemble de 42 chapitres, c'est bien ça, hein? 42 chapitres, nous allons en lire quelques-uns. Alors l'histoire de Job, vous la connaissez sans doute, mais on va l'étudier très sérieusement. Donc c'est un homme qui est riche et qui est heureux et qui est intègre et droit. Donc c'est quelqu'un de tout à fait bien et qui a aussi la chance de voir que la vertu et le bonheur vont ensemble. Hein? C'est une grande question philosophique. Est-ce que la vertu et le bonheur vont ensemble ou est-ce que, au contraire, il y a un hiatus éventuel entre les deux? Alors ça commence donc très bien comme cela. Excusez-moi. Mais voilà qu'une épreuve lui survient. Alors je n'explique pas maintenant comment l'épreuve lui survient, c'est un espèce de pari entre Dieu et le Satan, et il perd en deux épreuves tous ses biens d'une part, et ensuite, eh bien, sa propre santé est mise à mal, et il est sur le point de mourir, de pourrir sur place. Alors des amis viennent le trouver pour le consoler. Ils se mettent à discuter avec lui, il y a beaucoup de discussions dans ce livre, et puis finalement, Dieu parle lui-même, il intervient en disant quelque chose de ce que les amis ont dit, de ce que Job a dit, et puis voilà, Dieu restaure Job dans sa prospérité, dans son bonheur. Voilà, ça c'est très rapidement l'histoire de Job. Alors cette histoire qui se trouve dans la Bible est en fait une histoire qui n'est pas propre à la Bible, si je peux dire. En effet, de manière très étonnante, eh bien, il y a des livres qui précèdent l'histoire de Job dans la littérature sumérienne, etc. Alors, je cherche dans mes papiers. Où est-ce que ça se trouve ? Je ne vois pas immédiatement. Attends, mais je ne... Alors, je ne trouve pas le papier, tant pis, mais je vous dis de mémoire qu'est-ce qui se passe. Eh bien, déjà 20 siècles avant Jésus-Christ, dans des littératures sumériennes, babyloniennes, etc., eh bien, nous avons des récits où quelqu'un s'interroge sur le sens de la souffrance. Alors, comment est-ce qu'il s'interroge? Eh bien, de différentes manières. En Égypte, il y a quelqu'un qui a un dialogue avec sa propre âme et qui s'interroge, et qui interroge son âme, comment se fait-il que je suis en souffrance? Plus tard, dans d'autres littératures, c'est un homme qui parle avec son ami. Mais là, les dieux n'interviennent pas, ni lorsqu'il parle avec son âme, ni lorsqu'il parle avec son ami. Mais ensuite, il y a d'autres textes babyloniens, eh bien, où les dieux interviennent. Et on interroge Dieu. Pourquoi? Mais en général, dans cette littérature, Dieu n'est pas mis en question. Il est interrogé, mais il n'est pas pris à partie comme quelqu'un qui serait responsable de ce qui arrive à cet homme riche qui devient malheureux. Donc il y a des choses qui ont précédé Job dans la littérature mondiale, mais il y a quand même une spécificité de Job, au sens où avec Job, eh bien, il y a un juste souffrant, ça c'est commun à tous les récits dont je viens de vous parler, mais il y a une confrontation non seulement avec des amis, avec lui-même aussi, mais avec Dieu. Et non seulement avec Dieu dans le sens aide-moi, je te demande pardon, etc. Hein, délivre-moi de mon malheur, mais pourquoi me mets-tu, toi, dans cette situation, hein? Comment se fait-il, hein, que tu sois, semble-t-il, responsable de mon malheur? Pourquoi? Donc, l'interrogation en Job va plus loin. Le rapport avec Dieu est plus clair, mais il est aussi plus conflictuel, dirais-je. Voilà. Alors, toute petite parenthèse sur sa littérature, c'est absolument extraordinaire. Voici un numéro du Vif, l'Express, sur les Écritures, toutes les Écritures. C'est un numéro, hein, de 50 pages avec les toutes premières Écritures. Alors, on s'imagine que l'hébreu est une langue très ancienne, et c'est tout à fait vrai, hein, mais il y a d'autres langues qu'on a découvertes, assez récemment d'ailleurs, avec des archives écrites sur des tablettes d'argile. Hein, on n'avait pas de papier, de temps en temps on taillait dans la pierre, mais ça prenait quand même beaucoup de temps, hein, et c'était difficile. Donc il y avait des petites tablettes d'argile sur lesquelles, ben, on écrivait, et notamment de la comptabilité, des traités diplomatiques, etc. Et dans les archives du palais de Marie, par exemple, Marie, c'est un lieu à la frontière entre la Syrie et l'Irak actuel. C'est un lieu qui a été d'ailleurs abîmé par Daesh. Eh bien, on a découvert là un temple immense avec, je crois, 20 000 tablettes. Des petites tablettes qui, chacune, est comme une page ou deux de livres, hein. Donc voilà, la littérature de cette époque et dans ces régions est absolument merveilleuse. Alors, que voulais-je vous dire encore sur... Eh bien, ça remonte à 2000 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, nous avons le texte de Job, bien sûr, en hébreu, dans le texte massorétique, comme on dit, hein, voilà la Bible hébraïque. Ça se trouve donc dans un texte comme celui-ci. Mais il y a aussi la traduction dans la Septante, comme on dit, c'est la Bible grecque, hein, la Bible d'Alexandrie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quelques petites différences, hein, non seulement, je dirais, sur des mots accessoires, mais parfois même dans l'interprétation, hein. Par exemple, le verset Job 2, 9 est très célèbre à ce niveau-là, parce qu'après sa deuxième épreuve, la femme de Job lui dit « Bénis Dieu et meurs ». Alors, elle dit « Bénis Dieu », mais la plupart des traductions, vous trouverez « Maudit Dieu et meurs, hein ». En fait, « Maudit Dieu », c'est ce qu'elle veut dire, mais en hébreu, on ne dit jamais, hein, on n'utilise jamais le mot de maudire à côté du mot Dieu, c'est impossible. Donc on dit bénis Dieu et meurs.
De maudire. On n'emploie jamais le mot maudire.
On n'emploie jamais le mot maudire à côté du mot Dieu, et donc on dit bénis Dieu, mais ça veut dire maudit Dieu. Hein. Les gens comprennent, hein, c'est un euphémisme pour dire, ben voilà, tu dis à Dieu. Malédiction et tu meurs.
Et ça, c'est une interprétation.
Non. Donc, on en parlera plus longuement. Il est vraiment écrit bénis Dieu et meurs.
Les deux.
Partout. Il est partout écrit bénis Dieu et meurs. Mais dans nos traductions françaises, vous l'aurez peut-être remarqué, le verset 2-9, vous voyez que la Tobe et la BJ traduisent maudit Dieu et meurs, tandis que Chouraki traduit bénis Dieu et meurt. Mais il met béni entre guillemets.
En espagnol aussi.
Il met béni entre guillemets. En espagnol, c'est
maldire et maudit.
Oui. Eh bien, dans toutes les langues modernes, on prend le sens, hein, mais on ne prend pas la traduction exacte du mot, qui en hébreu ne peut pas être, hein, maudit Dieu. Alors, en grec, c'est la même chose. Mais peu importe, ce que je voulais vous dire, c'est que ce simple petit verset, « Bénis Dieu ou maudit Dieu et meurs », il est développé dans le grec. La femme ne dit pas que cela. Elle dit, tu te rends compte, on a perdu nos enfants, et moi j'ai tellement souffert pour les mettre au monde, et j'ai travaillé pour ceci, pour cela, et à cause de toi maintenant, eh bien, maudit Dieu et meurt. Donc il y a une amplification de ce verset de 9, le rôle de l'épouse de Job est amplifié, et d'ailleurs dans d'autres récits, la femme de Job a une personnalité tout à fait importante, on explique qu'elle va faire des ménages à gauche et à droite pour subvenir aux besoins de la famille et tout, et qu'elle aussi est dans le malheur, et elle vit l'épreuve de manière beaucoup plus personnelle dans d'autres récits. Mais voilà, donc il y a des petites différences. Alors, en fait, malheureusement, toutes nos Bibles sont traduites sur l'hébreu, et la traduction française du texte grec n'existe pas encore de manière moderne. Alors, il y a... dame là qui fait pour l'instant cette traduction, je ne sais plus comment elle s'appelle, de la Bible d'Alexandrie, mais on n'est pas encore arrivé au livre de Job.
Elle vient de mourir, hein,
Marguerite. C'est Marguerite Arras, ah, c'est ça? Voilà.
Ah, elle est décédée, donc. Elle trouve succession.
Ben, elle avait toute une équipe autour d'elle, bien sûr, hein. Donc Marguerite Arles fait la traduction depuis des années, hein, depuis des dizaines d'années même, de cette Bible en grec, en traduisant exactement le grec. Hein, et pas l'hébreu et le grec en même temps, hein, comme on faisait la plupart du temps. Mais il y a quand même chez Vigouroux, c'est un exégète et un théologien très très ancien, la Sainte Bible polyglotte en 1902. Et bien lui, par exemple, bien c'est un texte très précieux évidemment. Il a le grec, l'hébreu, le latin, le français et des notes. Des notes qui expliquent, eh bien, par exemple, quand ça diffère le grec et l'hébreu, il explique un peu pourquoi. Vigouroux, 1902. Je ne vois pas, pour l'instant, d'autres manières d'avoir un texte français complet de la Septante. Alors voilà, maintenant, je vais prendre les deux plans que je vous ai donnés. D'abord, le...
Bernard, parce que je suis tout à fait ignorant. Donc, la première version du livre de Job, c'est en hébreu.
Oui.
Après, c'est en grec, c'est la Septante.
Oui.
Et toutes les autres traductions dans notre langue sont d'origine de la Septante ou mélange de deux.
D'habitude, autrefois, c'était la traduction de la Vulgate. Ça veut dire qu'il y avait hébreu, et Septante, et puis on avait traduit en latin, mais beaucoup plus tard, 2e, 3e, 4e siècle, la Vulgate se fixe, hein, vers le 4e siècle, je pense. Et la plupart du temps, on traduisait la Vulgate. Mais la Vulgate était une troisième étape de rédaction. On traduisait la Vulgate. Alors, actuellement, nos Bibles préfèrent l'hébreu. On traduit sur l'hébreu. Mais dans la Bible catholique, pas dans la Bible protestante, dans la Bible catholique, on a aussi admis des textes qui n'existent que en grec. Je lis de la Sagesse, par exemple, hein, n'existe qu'en grec, on n'a pas le texte hébreu, peut-être qu'il y a un texte sous-jacent, on n'en sait rien, mais en tout cas, on ne le possède pas. Donc, notre Bible catholique se compose de textes hébreux et d'une petite partie de textes qui n'existent qu'en grec, qui ne sont donc pas la traduction d'un texte hébreu que l'on possède, mais qui a peut-être existé, on n'en sait rien. Alors, la plupart de nos Bibles actuellement traduisent sur l'hébreu. Et on met en note des choses qui diffèrent à partir du grec.
De temps en temps, on estime que la Septante est partie de textes plus anciens. On a des sources, des parchemins, des papyrus. Et parfois, dans la Belgique, ils ont estimé que la version la plus ancienne, en fait, c'est la Septante qu'il avait, parce qu'elle était partie de sources qui étaient plus antiques. Donc voilà, tout ça, généralement, il explique en notes. Mais ça arrive que, donc, du coup, il y ait des variantes qui soient expliquées par cela. Est-ce que j'ai des clés?
Alors, par exemple, pour expliquer ceci, ce sont des cas assez rares, hein, ce que tu dis, mais ce sont des cas très intéressants. Hein. Supposons qu'un texte A soit en hébreu. Ça, c'est le texte massorétique. Hein. Alors, est-ce que ce texte A, ça, c'est la ligne chronologique. Hein. Ce sont différentes strates chronologiques. Hein. Le texte A, il n'est pas tout de suite traduit en grec. Hein. Il peut un peu évoluer dans le temps, mais comme texte hébreu. Ça veut dire qu'il a été retravaillé, on a rajouté des mots, on a corrigé des fautes, etc. Bon. Alors, le texte hébreu évolue. Donc, je vais me mettre plutôt à 1, à 2, à 3. Et puis, tout à coup, on traduit. On traduit le texte à 3 et ça devient, disons, B1. Et le texte massorétique continue à évoluer. Tandis que, par exemple, celui-là, le B1, eh bien, il n'évolue pas. Alors maintenant, quand on ne possède plus que ces deux-ci, hein, vous voyez, on ne possède plus que ces deux-ci, celui-là et celui-là, finalement, quel est le texte qui reflète l'état le plus ancien? Eh bien, c'est celui-ci, parce que lui n'a pas évolué, mais il a traduit une version antérieure. Alors, c'est très curieux, hein, de se rendre compte que c'est une traduction qui reflète le texte le plus ancien et que le texte hébreu, soi-disant original, est finalement plus récent, hein, et reflète moins ce qui était à la source, mais c'est très difficile de savoir ce qui était à la source.
Mais ça, c'est seulement pour le livre de Job, pour tous les...
Non, ça, c'est en général.
En général,
c'est un schéma général. Hein. Ça peut se remarquer, par exemple, chez Ézéchiel. Mais c'est surtout tout petit passage que les exégètes font des recherches extrêmement pointues pour montrer cela. Mais quand on a montré le principe, ça nous aide à savoir si c'est vrai que l'hébreu est toujours le plus original. Ben non, pas toujours.
Seulement pour l'Ancien Testament?
Bien sûr.
Ou aussi pour le Nouveau Testament?
Pour le Nouveau Testament, non, parce que c'est beaucoup plus clair. Tout n'est qu'en grec. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, disons, la culture était déjà tout à fait différente et il y avait une conservation des manuscrits et des papyrus, etc., beaucoup plus précise.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'aujourd'hui, certains traduisent même le grec en araméen. Et en pensant, j'ai connu une femme comme ça à Paris qui s'attelait à cela et disait, mais on retrouve certains textes en vers, comme si c'était un poème. Et donc, et l'araméen, qui était une tradition orale précédant l'écrit grec, donne des connotations parfois extrêmement intéressantes. Donc voilà.
Donc ça, c'est pour le Nouveau Testament. Hein. En effet, il n'est que en grec, mais il est très possible qu'il y avait... Parce que ceux qui ont écrit ce grec pensaient en araméen. Hein. C'est comme si vous, espagnol, ou moi, français, nous écrivions un texte en anglais. Alors on dirait, ben c'est écrit en un très bon anglais, mais il y a des hispanismes ou des belgicismes dans mon anglais.
Hein. Oui. Voilà. Et ce que j'aimais, c'est la saveur qu'elle trouvait en ayant traduit en araméen. Donc voilà. Parce qu'elle disait, enfin, il y a des connotations qu'on ne trouve pas du tout dans le grec.
Voilà. Alors prenons mon texte maintenant, ici, le quadrillage là. Et en fait, c'est la feuille de route de notre programme. Hein. C'est à la fois un plan, mais pas un plan très élaboré sur la thématique. Et c'est surtout, un guide et un calendrier. Voilà, vous avez tous les chapitres, là, de 1 à 42, coupés par morceaux. Pas toujours un seul, hein, mais 1, 2 à la fois, 3, et puis 4, 5, etc. Alors, dans la première colonne, Job, je dis comment Job intervient dedans. Il intervient, vous voyez que quand c'est un blanc, ce n'est pas lui qui parle. Dans la deuxième colonne, les amis, les trois amis, Eliphaz, Bildad et Sophar, sont trois amis qui interviennent, et vous voyez que ça alterne. Job, Eliphaz, Job, Bildad, Job, Sophar, Job, Eliphaz, Job, Bildad, Job, Sophar, Job, Eliphaz, Job, Bildad, Job, peut-être Sophar, là il y a des questions, et donc il y a trois cycles où chaque fois les trois amis font un discours et où Job soit a commencé, soit achève. Hein. Voilà, ça c'est, et tout ça est en poésie. Tout ça est écrit en poésie hébraïque. Hein. C'est un texte poétique. Ensuite vient un certain Eliou, vous voyez en dessous des Eliphaz, Bildad, Sophar, un certain Eliou, c'est un quatrième personnage qui lui n'entre pas vraiment en dialogue mais fait de longs discours où il résume et corrige tout ce qui a été dit auparavant. Hein? dans les chapitres 32 à 39. Nous allons en lire une partie. Alors, ensuite, Dieu prend la parole. Vous voyez, ça c'est la colonne suivante, Dieu. Alors, je vous parlerai ensuite de comment on appelle Dieu, quel est le nom qu'on donne à Dieu. Dieu, le Seigneur, Adonai, Yahvé, voilà. Parce que même dans nos langues aujourd'hui, Dieu est désigné par plusieurs noms. Hein. Et ce n'est pas la même chose de dire, par exemple, le Tout-Puissant ou le Tout-Miséricordieux. Hein. Donc, c'est la même personne qu'on vise, la même personne divine, mais en donnant un titre plutôt qu'un autre, il est évident que... on vise quelque chose d'autre. C'est important. Donc Dieu intervient tout au début, dans les chapitres 1 et 2, sous le nom de Yahvé d'ailleurs. Et puis il intervient au chapitre 38, 39, 40 et 41. Alors, ce qu'il faut lire, j'ai mis oui. Hein, ça, ce sont les chapitres qu'on va lire. Quand j'ai mis oui, ce sont les textes que vous avez reçus et qu'on va lire, et à la date indiquée à l'extrême droite. OK ? Bon, donc ça c'est un peu le plan de notre calendrier. Alors je prends l'autre plan et je vais terminer, ensuite on va commencer à lire le texte. Voilà, vous voyez que ça c'est le plan fait par Marie David Veil, une religieuse de Saint-Jean qui a donné cours à l'IET en 2019. Alors vous voyez, je commence tout au-dessus. Cadre en prose. Le cadre en prose, c'est le prologue et l'épilogue, à gauche et à droite, vous voyez. Cadre en prose. Prose, ça veut dire un récit qui n'est pas versifié, qui n'est pas en poésie. Ensuite, tout le reste est une grande discussion poétique. Alors, je vais aller assez vite, hein. Vous voyez que ça commence par un monologue de Job, et puis par un dialogue avec les amis. Ce dialogue de 4 à 27, vous descendez la ligne qui se trouve entre 4 et 27, là, et vous allez tout en bas, et vous avez les trois cycles, cycle 1, 2, 3. Vous les voyez ? Hein, vous pouvez faire une flèche. Bon. Ensuite, de nouveau un monologue. Là aussi, vous pouvez descendre en dessous et vous voyez ce qui est dit. Et puis, discours de Dieu. Discours de Yahvé, 38 à 42. Là aussi, vous descendez la ligne et vous trouvez un petit encart avec reconstitution, introduction, etc. Vous voyez ça. Et puis, on passe à l'épilogue. Vous voyez qu'il y a aussi, vers le milieu, la éloge de la sagesse, chapitre 28. En dessous de... vers le milieu, là, hein, éloge de la sagesse. Et les quatre discours de Éliou. Alors cet éloge de la sagesse, c'est un texte qui a sa cohérence en soi. On ne sait pas s'il a été ajouté après, on ne sait pas exactement qui le prononce, ça pourrait être Job. Bon. Et les quatre discours d'Éliou, comme je vous ai dit, eh bien, c'est une espèce de résumé et correctif de tout ce qui a été dit. Alors cet Éliou donne des points à tout le monde, il dit « toi tu n'as pas bien parlé, toi tu as bien parlé, ça ne va pas ». Donc c'est comme certains considèrent que c'est le cœur, hein, du livre de Job, que c'est là qu'on a vraiment l'essentiel. Voilà, alors je signale encore qu'un auteur comme Vogels, par exemple, eh bien, considère que ces différents discours sont différents langages. Il y a le langage de la foi populaire, hein, qu'on trouve dans certains discours, le langage du silence, du doute, le langage de la théologie, de la prière, le langage prophétique, le langage de la mystique. Et voilà que ce sont un peu différentes facettes, hein, des discours possibles sur le rapport entre l'homme qui souffre et son Dieu. Voilà, je vais m'arrêter ici, j'arrête l'enregistrement également.